Nous avons tous entendu l'adage « le client est roi ». ROI, trois lettres qui représentent le Graal de toute entreprise. Alors faisons entrer dans l'arène les troubadours, jongleurs et ménestrels des plus belles marques B2B. Ils sont Customer Experience, Sales et Marketing et vous révèlent les secrets d'une expérience client sublimée et créatrice de valeur. Je suis Léonie Deverdelan, fondatrice de Jeudi Merci, et je vous souhaite la bienvenue dans les Fous du Roi. On vous a promis les plus belles marques B2B dans ce podcast, et aujourd'hui, je suis certaine qu'on ne va pas vous décevoir. Vous avez sûrement entendu parler de Love Brand en B2C, des marques comme Apple qui génèrent des communautés de fans impressionnantes. Parmi les entreprises B2B, il y en a une qui se démarque, qui s'appelle HubSpot. Et aujourd'hui, nous accueillons la directrice marketing d'HubSpot, Julia. Bonjour Julia.
Salut Léonie.
Donc Julia, pour commencer, est-ce que tu saurais nous dire pourquoi HubSpot est une love brand aujourd'hui?
Avec plaisir. HubSpot, bien sûr, c'est un CRM couplé à des logiciels pour les équipes marketing, commerciales, de services clients, les équipes IT également. Mais HubSpot, c'est aussi une expertise. Et pour nous, c'est très important d'accompagner les professionnels dans leur carrière, de les aider à monter en connaissance. Et donc, on a tout un pôle de contenu qui vont permettre aux équipes d'en apprendre un petit peu plus sur des sujets de prédilection et de vraiment être entraînés à mieux faire et à bien faire.
Et donc, c'est quoi vos sujets de prédilection?
Nos sujets de prédilection, c'est de comprendre vraiment les problématiques de nos clients, les problématiques des équipes de nos clients, de les accompagner sur des sujets aussi importants que comment bien prospecter, comment gérer ses campagnes marketing, mais aussi sur des sujets émergents, TikTok, est-ce que c'est pour moi, par exemple, et donc de les aider avec des exemples concrets et des cours très bien formatés.
Et pour les personnes qui ne travaillent pas en marketing B2B, qui ne connaissent pas forcément HubSpot, je ne sais pas si ça existe, mais par exemple, une grand-tante à un repas de famille, comment tu lui expliquerais ce que fait HubSpot?
Très bonne question. Alors, je l'ai expliqué à mon grand-père il n'y a pas si longtemps. Il faut comprendre l'ère dans laquelle on vit. On est dans ce qu'on appelle l'ère du client. On est dans une société très connectée. Les informations sont faciles d'accès sur Internet. Mais ce qui est important, ça va être de fidéliser. Pour fidéliser, il faut comprendre que d'une, il y a l'accompagnement des équipes. Comment on a des systèmes internes qui vont permettre d'envoyer des emails au bon moment, d'envoyer un message personnalisé à une audience qui va pouvoir réagir. Et donc, comment on crée un système qui va pouvoir être partagé par les équipes. Et le deuxième point, pour toutes ces équipes, donc de le voir en temps réel, de se dire, cette personne est arrivée sur mon site en lisant comment migrer mon SEO d'un site à un autre et comment je peux bien le faire. Et donc, par rapport à cette question, on va avoir une équipe commerciale qui se dit, j'ai une personne qui est intéressée par la migration. Je vais donc recontacter cette personne pour lui dire, HubSpot, c'est super pour la migration. Et encore une fois, d'avoir un message super personnalisé. Ça évite d'être dans le bruit. On sait qu'avec la crise sanitaire, il y a eu plus de 30% de communication envoyée. On a vraiment des utilisateurs ou des consommateurs qui sont noyés. Comment se différencier? Ça, c'est l'expérience client selon HubSpot.
Hyper intéressant. Et du coup, j'imagine qu'aujourd'hui, vous appliquez les méthodes prônées par HubSpot chez HubSpot. Je pense qu'on va dire beaucoup de fois HubSpot dans cet épisode. Et du coup, c'est quoi pour toi aujourd'hui la fonctionnalité clé ou le point sur HubSpot dont tu pourrais plus te passer?
Alors, plus qu'une fonctionnalité, pour moi, c'est vraiment une valeur. Et cette valeur de l'alignement entre les équipes. Je reviens souvent parce que c'est ce qu'on fait en interne. Je gère une équipe marketing, je gère des équipes académie, les équipes automation qui vont envoyer des emails, encore une fois. Et je leur dis toujours, d'une, il faut savoir se mettre bien évidemment à la place du client, mais surtout, il faut comprendre ce que font les autres départements et de vraiment communiquer avec les équipes commerciales. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qu'ils vous disent vos prospects? Quelles sont les problématiques qui reviennent? Ça va me donner une idée pour une campagne marketing. Ça va me donner une idée pour une série d'articles blog. Et pareil, au niveau du service client, qu'est-ce qui ne va pas en ce moment ? Est-ce qu'il y a, on a des retours particuliers sur soit une fonctionnalité, soit quelque chose qui ne marche pas trop ? Eh bien ça va nous permettre de donner ça aux équipes de produits pour encore une fois améliorer. Donc jamais être dans le statique. Et ça permet d'accompagner, d'évoluer avec notre audience.
Et c'est hyper intéressant. Moi, j'ai parlé avec pas mal de nos invités sur les précédents épisodes qui essayent d'avoir une démarche dans laquelle toutes les équipes peuvent participer à l'élaboration du produit, des contenus, et qui ont du mal en fait à tout centraliser et à être certains que les commerciaux aient un endroit où mettre leur feedback, que les équipes support puissent faire la même chose. Comment vous gérez ça très concrètement, c'est quoi votre outil magique pour gérer ça ?
Alors, pour moi, il y a deux choses. La première, bien évidemment, c'est pas pour faire un pitch commercial sur HubSpot, mais effectivement, un alignement avec un outil centralisé, ça fait quand même la grosse différence. En fait, ce qu'on combat, nous, chez HubSpot, ce sont les spreadsheets, les Google Docs, où il y en a partout. Au départ, ça part vraiment d'une bonne intention. On va mettre tous nos retours sur cette spreadsheet. Au bout de 3 mois, personne ne fait d'update sur cette spreadsheet, et donc la communication ne passe pas. Alors, ce qu'il faut, c'est bien évidemment un tableau de bord, c'est une vision à 360 du client ou de l'utilisateur, que le marketing manager va pouvoir voir, le responsable commercial et le responsable service client. La deuxième chose, c'est d'avoir des points d'ancrage. Donc, bien évidemment, d'avoir des retours, des petits réunions mensuelles où on met à plat, effectivement, les problématiques rencontrées, ce qui a marché. Et donc là, qu'est-ce qui fait la différence ? Eh bien, c'est la donnée. Et c'est savoir, en fait, il y a une phrase que je dis toujours à mon équipe, comment on arrive à voir la forêt au milieu des arbres. La donnée, c'est l'or noir. Il y en a beaucoup. On a des volumes énormes de données. Encore une fois, comment j'arrive à segmenter cette donnée ? Qu'est-ce qui est important pour moi ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Donc, d'avoir un système d'attribution fait la différence. L'exemple là de mon équipe. Ok, cette campagne marketing, bon, super, elle nous apporte tant de trafic, il y a une belle conversion sur le site. Mais en fait, derrière, est-ce qu'on a fait plus de deals ? Est-ce que les commerciaux derrière ont réussi avec cette campagne à avoir des prospects super qualifiés ? Et bien là, nous chez HubSpot, j'ai ce qu'on appelle un service level agreement, ce qui veut dire moi tous les mois, mes campagnes marketing doivent apporter entre 60-70% des deals closés par les sales. Et donc là...
C'est ambitieux.
Ah, c'est ambitieux, mais ça marche. Ça marche. Et ça permet d'une, de remonter un petit peu de par la donnée, on monte aux équipes commerciales. Ce qu'on fait, ça marche quand même pas mal. Donc là, encore une fois, c'est pas juste oh, les équipes marketing font de jolies campagnes. Non, en fait, elles sont pertinentes. Et de l'autre côté, on va avoir les équipes commerciales qui vont nous dire vous voyez, il y a eu cette campagne, ce contenu marche super bien. Est-ce qu'on peut en faire un petit peu plus ? Par contre, là, ce concept, ce sujet... hyper niche sur comment prospecter par email en 3 étapes, ça marche plus trop. Par contre, la prospection par vidéo, c'est ce qui a un impact. Faites-moi du contenu. Et donc, il y a une communication qui se crée. Il y a beaucoup plus de messages positifs entre les équipes. Et derrière, on a les chiffres qui parlent.
Et ça, dans ton exemple de prospection vidéo, c'est les commerciaux qui vont avoir un feedback qualitatif de le prospect leur disant « j'aimerais mettre en place de la prospection vidéo, par exemple ?»
Alors, qualitatif et quantitatif. En fait, nous, ce qu'on a vu, on est sur la méthodologie inbound. L'ADN de leadbound, c'est quoi ? C'est de mieux attirer, mieux interagir et mieux fidéliser. Donc, au lieu d'envoyer un email type à 1 million de personnes, on va utiliser des segments, des séquences, avec, en fonction, quand on a attiré une personne, sur quoi cette personne a cliqué. Et ensuite, vous allez avoir des catégories. Et par rapport à ces catégories, vous allez avoir les équipes sales qui vont renvoyer des messages automatisés, mais segmentés. Et donc là, il y a les équipes sales qui nous disent « Eh ben, mon email sur... quand j'ai fait un retour à ce prospect avec des vidéos, plus qu'avec 3 pages de documentation, j'ai eu plus d'ouverture, plus de réactivité, et derrière, j'ai fait plus de deals. » Ça prouve, ok, ça c'est un sujet, il faut qu'on se focalise sur ce sujet.
Hyper intéressant. Et quand tu parles de campagne marketing, tu peux nous donner un exemple, par exemple, de la dernière campagne que vous avez mise en place, comme ça on sait de quoi tu veux parler.
Alors, la dernière, on en fait beaucoup de campagnes, mais celle qui a eu un gros impact dans un moment un petit peu difficile, En France, la saisonnalité est vraie. Donc, en juillet, en août, qu'est-ce qu'on fait? On sait qu'on ne va pas pouvoir vraiment vendre. Comment on continue d'engager? Comment on continue de proposer du contenu qui va faire la différence? Et ben donc, on a sorti le concept les cahiers de vacances pour les professionnels. Et donc, on s'est dit, OK, en général, en vacances, on ne va pas forcément sur LinkedIn, on ne va pas regarder nos emails pro, et c'est très bien. Par contre, on va maximiser sur Facebook, Instagram, Twitter. Et on va dire, bon, en septembre, ça va repartir. C'est le moment de penser à sa croissance personnelle. Qu'est-ce que vous voulez faire, etc. Et donc, on a créé différents cahiers de vacances en fonction des besoins, avec des quiz ludiques sur comment je peux devenir manager en 5 étapes clés. Et donc, à envoyer voilà, du contenu hyper personnalisé sur vraiment le concept, voilà, ma carrière est importante pour moi et je vais remonter du contenu qui va permettre pour moi de faire la différence. Et on a eu notre meilleur taux d'ouverture en juillet et en août par rapport à 2020 avec voilà, un concept de contenu innovant. Pourquoi ça a marché? Encore une fois, on n'était pas dans faut vendre, mais bah, de quoi on a envie, nous, quand on est en vacances? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Ouais, c'est le côté humain du marketing dont on va pas mal parler. Quelque chose qui m'a marqué quand on a préparé cet épisode, c'est que donc aujourd'hui, vous avez environ 120 000 clients et une communauté de fans de la marque, ou en tout cas une communauté vraiment à fond derrière vous, qui fait plus de 3 fois cette taille. Comment est-ce que vous avez fait pour réunir autant de monde autour de votre marque, qui, à la base, est un CRM, ce qui n'est pas non plus le produit le plus sexy du monde?
Voilà, tu l'as dit, c'est pas le produit hyper sexy, mais c'est quand même, c'est un vrai besoin, hein, c'est une pierre angulaire pour l'expérience client. Et ça revient, voilà, en 2006, quand on a nos fondateurs qui se sont dit, on est quand même dans un matraquage des communications, faut absolument que les entreprises repensent la manière qu'elles ont d'interagir, et donc de se recentrer plus tant sur le produit, mais sur les problématiques de mon audience. Et donc, quand on commence à penser à ce concept, c'est là où on a en fait un large champ de possibilités et de se dire, mais en fait, c'est génial. Parce que nous, notre CRM, bien évidemment, on va l'utiliser pour les équipes commerciales, marketing, service client, IT, des professionnels qui sont à différentes étapes de leur carrière. Et là, vous avez des sujets, un champ de possibles qui est incroyable et on s'est dit, nous, ce qu'on veut, c'est accompagner les professionnels. On veut bien évidemment participer à l'accélération de leur croissance. Et pour qu'une entreprise ait une belle croissance, il faut se recentrer sur le professionnel et l'employé. Comment on va les accompagner? Comment on va proposer du contenu qui va leur permettre de monter en connaissance, d'avoir des certifications qui sont reconnues, parce qu'elles le sont chez HubSpot, qui sont aussi vraiment poussées par les entreprises en général. Fais une certification HubSpot, j'ai besoin que tu montes en connaissance sur les réseaux sociaux. Et donc, par rapport à ça, on s'est dit, on se recentre et on crée du contenu. Et on s'est basé sur les problématiques, les innovations dans nos secteurs. Et c'est là où on a vraiment fidélisé une communauté professionnelle qui sont heureux avec nous.
Ouais, donc vous les fidélisez en leur permettant de progresser dans leur carrière, d'approfondir leurs connaissances et en pensant aux employés avant même de penser aux clients.
Exactement. Un beau chiffre pour nous, l'année dernière, on a notre certification pour la prospection en ligne des commerciaux qui a suscité un engouement tel, on a augmenté de 60% en fait la prise de cette certification. Pourquoi? Parce qu'elle répondait à un besoin. Les équipes commerciales, elles ont été un petit peu lésées pendant la crise. On est quand même dans une culture assez latine. Comment on va prospecter, on va chez le client, on est présent pendant 3 heures et puis on va se faire un déj. Eh ben, ça n'a plus été possible pendant la crise sanitaire. Et du coup, nous, on a participé voilà, de la montée en connaissance des équipes commerciales pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs.
Et la certification, comme ça convertit?
Très. Ça convertit pourquoi? Parce qu'on revient sur la love brand, de se dire, eh ben en fait, j'ai pris une certification pendant 6 heures, pendant 12 heures. Là, peut-être qu'on avait effectivement un marketing manager qui n'est pas un décideur. Ce marketing manager a pris une certification. Eh ben, en 6 mois, en 1 an, cette personne a aussi pris de l'ampleur dans l'entreprise. Et puis, à un moment, elle se retrouve décideur. Ça ne marche pas du tout, nos systèmes ne sont pas bons. HubSpot, j'ai une bonne expérience avec HubSpot. Ils font un CRM, ils ont un logiciel marketing. On peut peut-être s'y pencher.
Ouais, donc c'est un combo gagnant.
C'est le combo.
Et donc, on parle d'expérience client d'inbound. Aujourd'hui, quand on crée un produit qu'on veut à tout prix aller vite pour le commercialiser, on a tendance à tout miser sur de l'acquisition payante, des quick wins, comme on dit. Si je comprends bien, chez HubSpot, en 2006, vous avez tout de suite décidé de créer du contenu pour apporter de la valeur à vos prospects, à vos clients. Comment est-ce que vous avez pris cette décision? Est-ce que ça a été une évidence ou est-ce que ce côté, cette approche héroïste, rapide, vous a un peu biaisé, vous a un peu embêté?
Alors, une évidence vraiment pour Dharmesh et Brian et les cofondateurs d'HubSpot, encore une fois, c'était de se rendre compte qu'il y a un vrai problème. On est matraqué, on ne sort plus. On est vraiment dans un univers très bruyant et on peut plus être comme dans les années 90 où on va matraquer juste sur un produit. Pourquoi ? Parce que c'est très rare en 2021 d'avoir un produit et d'être le seul sur le marché. Donc la vraie différence, c'est bah derrière, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on crée qui va, encore une fois, fidéliser comment on devient une love brand. Et donc, de partir sur une stratégie de contenu, une méthodologie qui va être vraiment sur mon audience à ses problèmes, comment moi je peux y répondre, en créant des articles de blog, des campagnes, des livres blancs qui vont répondre à différentes problématiques. Ça a fait une différence, pourquoi ? Parce que d'une, on est quand même dans une stratégie de performance. On sait que Google et le ranking, c'est aussi bien évidemment important, qu'on peut pas se plier uniquement à la stratégie publicitaire de Google, parce qu'il y a une concurrence incroyable, parce que ça coûte cher. Et donc, il y a les publicités Google, et puis juste en dessous des publicités, vous avez le reach organique. Et donc, là, c'est là où Google va vraiment s'appuyer sur la qualité, effectivement les mots-clés, il y a un côté très scientifique, mais aussi sur des problématiques et le trafic que ça amène. Donc en réussissant à sortir du lot et être dans le top 3 du Google organique, bien évidemment vous gagnez en visibilité et donc vous gagnez en performance.
Et on dit souvent que le SEO, le fait d'être présent dans la recherche organique, prend énormément de temps avant de montrer des résultats. Est-ce qu'au lancement de HubSpot, ça a pris du temps ? Au bout de combien de temps est-ce que cette stratégie SEO a commencé à...
Alors, ouais, une stratégie SEO, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Moi, je pars du principe que toute bonne stratégie doit être pensée comme telle. Je pense que c'est le côté agile des entreprises, les startups, les scale-up qui fonctionnent. Plusieurs itérations. Donc, d'une, c'est jamais de mettre ses œufs dans le même panier. Et c'est un parti pris de savoir, en fait, ça va mettre 6 mois à créer du contenu de qualité et je vais l'accepter. Et en fait, derrière, ça n'empêche pas d'avoir une stratégie commerciale et de, bien évidemment, de faire de la prospection pour derrière quand même avoir des clients, mais le concept majeur d'HubSpot avec la méthodologie inbound, c'était aussi ce qu'on appelle le marketing automation. Comment automatiser bien pour permettre aux équipes de prendre du temps sur des sujets à haute valeur ajoutée et derrière d'avoir une machine bien huilée qui permette de se rappeler au bon souvenir de l'utilisateur.
Et quand tu te lances dans un marathon de création de contenu, comment est-ce que tu es sûr de ne pas partir dans la mauvaise direction ? Parce que c'est une peur qu'on a forcément quand on se dit on mise tout sur le long terme et on ne peut pas savoir avant 6 mois si on a pris la bonne décision.
Le plus important, et c'est là où le concept de brand, de notoriété de marque est aussi important. Quand vous commencez sur un marché ou quand vous voulez changer un petit peu votre business model, il faut faire des études, des études de concurrence, bien évidemment, et savoir aussi, mon audience, elle a envie de quoi et besoin de quoi. Donc, de réussir à être focalisé. On dit souvent à nos clients qui vont arriver, vous mettez pas sur tout. Vous n'avez pas besoin d'être sur tous les réseaux sociaux. Vous n'avez pas besoin de maximiser toutes les publicités sur Google, sur Bing, sur LinkedIn. Non, on se recentre. Donc, pendant 1 mois, 2 mois, vous allez faire une étude de marché, qualitative et quantitative, sur votre audience cible. Et c'est cette audience qui déjà va vous expliquer, moi c'est ce contenu qui me plaît, ok. Voilà. Déjà, si vous allez créer du contenu qui a été mis en avant par votre audience, il y a quand même un petit peu moins de chances de se planter que de se dire, je vais lancer ça, et puis je fais pas de recherche, et puis je vais dépenser 50 000 euros pour la production de contenu sur mon blog, et dans 6 mois, derrière, il n'y a rien, parce que il y a eu une mauvaise problématique. Derrière, il faut s'accompagner. Pour moi, le SEO, c'est aussi scientifique. Donc, pour ne pas se planter, bah, tout ce qui est méta-title, méta-description, etc., quels mots-clés. Là, vous avez des outils qui vous permettent de les quantifier. Qu'est-ce qui, ce mot-clé, en fait, il a énormément de trafic. Par contre, je ne suis pas le seul sur ce mot-clé. Il y a énormément de concurrents qui ont aussi fait du contenu. Alors, est-ce que ça a du sens que je maximise sur ce mot-clé ou je vais aller un petit peu plus en niche sur un contenu qui n'est pas forcément très utilisé, mais derrière, il y a une audience, et encore une fois, de maximiser selon ma valeur ajoutée. Donc, faut bien le penser en amont. Il faut quand même bien réfléchir à tout ça.
Et donc, on parle de création de marque, de création d'une identité via le contenu. Est-ce qu'il y a d'autres aspects intéressants, enfin, aspects importants pour créer une marque? Parce qu'on voit souvent des startups qui se créent, qui se disent « c'est bon, j'ai un logo, j'ai décidé quelle était ma couleur ». Derrière, c'est quoi les étapes pour créer une marque forte?
Les valeurs. Et ça, c'est vrai que ce sont des valeurs chères à HubSpot. On a le concept de heart, c'est-à-dire que nous, en interne et en externe, on veut véhiculer un sentiment d'humilité, d'empathie, d'être responsable vraiment par rapport à ce qu'on fait. En anglais, on va dire walk the walk. Ça veut dire qu'on va avoir un code culture qui est partie intégrante de la stratégie de l'entreprise, et c'est ce qu'on va véhiculer aussi en externe. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, il y a des sujets sur lesquels nous, on part du principe qu'il faut un parti pris. On a parlé là de société américaine, ça a été compliqué pour les États-Unis ces deux dernières années. Eh ben, on a une entreprise qui a pris le parti Black Lives Matter, par exemple. Donc, pas d'être dans le côté politique, mais ça le devient un petit peu, c'était un sujet important. Et nous, on s'assure que le concept de diversité, inclusion et belonging est vraiment acté. Donc, le contenu concret, eh ben, c'est un contenu qui est divers, hein, qui parle à des communautés. On n'est pas seulement dans le matraquage de photos, de commerciaux de entre 30 et 40 ans qui sont des hommes blancs cisgenrés. Donc, on essaye de participer de ça. Et on a aussi derrière voilà, tout ce qui a trait à comment on s'assure que notre blog, par exemple, on est en train de tester en ce moment des audio CTA, parce que y a des personnes qui, les personnes non-voyantes peuvent aussi apprendre de notre contenu. Donc, on va créer des choses en audio. Donc, tout ça, ça crée des sentiments de valeur qui sont véhiculés sur nos réseaux sociaux, sur notre contenu, et qui vont permettre de fidéliser, parce que derrière, voilà, on n'est pas que dans « c'est notre super produit », mais on est vraiment dans une image de marque.
Mais même dans ce que tu nous partages aujourd'hui, j'ai l'impression que vous êtes même pas du tout dans « c'est notre super produit » et beaucoup plus dans tout le reste, beaucoup plus dans l'accompagnement, dans « on vous aide à atteindre vos objectifs », donc marketing, vente, support, vous vous adressez à une cible très large. Comment vous arrivez à tenir le rythme et à proposer des contenus utiles pour chacune de ces cibles?
C'est encore une fois d'être curieux pour une équipe marketing, savoir qu'est-ce qui marche en ce moment, cet alignement chez les commerciaux, mais quels sont les problèmes que vous rencontrez en ce moment, quelles sont les problématiques de vos prospects, qu'est-ce qui revient en ce moment. D'accord, donc il y a ces problèmes-là, ça revient depuis quelques mois. Créons du contenu pour pallier à ce manque de connaissances ou une innovation sur laquelle on n'a pas encore maximisé notre contenu. Donc, d'être à l'écoute, on a le concept du NPS, le Net Promoter Score, c'est-à-dire nous, même en produit, on va envoyer des petits sondages réguliers à notre communauté, nos clients, nos communautés de professionnels pour Académie, qui nous font des retours, parce que on n'a pas la science infuse. En fait, on arrive effectivement à mieux faire parce qu'on a une communauté qui se sent écoutée et qui a les moyens de le faire, de nous donner du feedback. Et donc, encore une fois, ça vous donne des idées tous les jours, tous les mois, pour mieux faire et, encore une fois, de continuer à évoluer avec nos clients et notre communauté de professionnels.
On va maintenant passer de l'autre côté du miroir et j'aimerais que tu partages avec nous ta meilleure expérience en tant que cliente.
Alors, pour moi, ça a été une colle. Il y en a plusieurs. Difficile de faire un choix. Mais je pense effectivement que le concept de marketing plein d'empathie, ça fait la différence. Donc en ce moment, il y a une marque que j'adore, c'est Naturalia, qui a eu une stratégie incroyable pendant la crise sanitaire, de vraiment se recentrer sur l'humain, d'être en vulnérabilité et dans les émotions sur ses réseaux sociaux. Donc c'est une marque que j'ai suivie, pas forcément parce que j'achète bio, mais parce que derrière, elle a mis en avant des problématiques ou des sujets qui n'étaient pas forcément liés à Naturalia, par exemple l'écologie et les serviettes périodiques, sujet un petit peu tabou en France, etc. Ils ont réussi à faire des stories Instagram, mais vraiment hyper ludiques, hyper intéressantes, avec des commentaires masculins, féminins, vraiment drôles, mais aussi plein d'émotions. Et ça fait la différence, parce que c'est une marque. J'ai plaisir à aller dans les magasins Naturalia. Et derrière, il y a une vraie éthique, une vraie manière de communiquer qui, pour moi, a fait la différence. Et pour moi, ce sont les marques qui gagnent.
On va passer à la dernière partie de cet épisode avec quelques questions flash. Donc, j'ai préparé quelques questions pour toi. Certaines faciles, d'autres un peu plus compliquées.
Aïe, aïe, aïe.
Ton objectif, répondre du tac au tac. Alors, la première, je pense qu'elle va être facile pour toi. C'est quoi l'outil magique, à part HubSpot, dont tu ne peux plus te passer aujourd'hui?
Asana. Asana, c'est ma grande passion. C'est l'outil le plus collaboratif, joli, performant. Asana, c'est parfait.
Et du coup, tu fais quoi sur Asana?
Tout. on a toutes nos tâches, nos projets, nos suivis, nos objectifs key results. C'est vraiment un outil collaboratif qui nous permet d'être plus performant.
Alors là, c'est une question qu'on m'a demandé spécifiquement de te poser. Mais donc HubSpot a une tarification assez compliquée et on m'a demandé une page tarif aussi compliquée, est-ce que ça convertit ?
Très très bonne question. La réponse, c'est peut mieux faire. C'est pour ça qu'on est en ce moment en train de faire un A/B testing sur cette page qui nous donne du fil à retordre. Donc stay tuned pour les résultats.
Mais j'ai hâte d'en savoir plus. Mais par contre, vous garderez la tarification compliquée.
On est un petit peu obligé, malheureusement, ouais.
C'est quoi le plus gros flop que vous ayez fait sur une OP? Un truc où vous aviez l'impression que ça allait fonctionner comme jamais et où finalement les résultats ont été plus que décevants?
Le plus gros flop, c'est notre dernier webinaire sur les opérations de revenus. Un sujet très compliqué sur la donnée, qui est très important, mais en France, le concept de RevOps n'est pas encore acté. Donc,
c'est quoi le RevOps?
Alors, le RevOps, c'est donc les opérations de revenus. C'est de partir du principe que le contrôleur de gestion qui fait ses projections une fois par an, en fait, c'est fini, ça marche plus. Il faut savoir être agile et donc comprendre le retour sur investissement de toutes ces campagnes et d'avoir plus d'agilité, donc d'avoir un RevOps, une personne qui est dans les équipes et qui regarde les chiffres et peut faire des améliorations. Mais donc RevOps, c'est pas du tout compris en France, donc on a fait un énorme flop parce que tout le monde était là, je comprends pas ce que ça veut dire, et c'est donc on était un petit peu trop avant-garde. Voilà.
Si je te donnais un budget illimité, qu'est-ce que t'en ferais?
Alors, si c'est illimité et qu'on n'est pas que sur la performance, je sponsoriserai des associations pro bono, NGO, ce qu'on fait aussi chez HubSpot, pour vraiment le concept de give back. Comment est-ce qu'on peut aussi accompagner des communautés qui sont un peu plus dans ce qu'on appelle l'électronisme. On a quand même 13 millions de Français qui n'utilisent pas de smartphone, comprennent pas comment gérer leurs problèmes sur Internet. C'est un gros problème qui me tient énormément à cœur. Donc, soutenir par exemple Emmaüs Connect qui fait ça. Et donc, les accompagner pour après qui, eux aussi, aient une super expérience client.
C'est quoi le pire défaut à avoir quand on fait un métier comme le tien ?
L'impatience.
Les fameux 6 mois pour avoir des résultats ?
Ouais.
Donc, t'es plutôt marathon que sprint ?
J'essaye d'être plus marathon que sprint, mais je suis aussi très impatiente. Et donc, il faut savoir ranger son frein. En tant que leader aussi, canaliser les équipes, savoir les écouter, ça, c'est hyper important. Donc, le pire défaut, c'est d'être impatient et aussi d'avoir un manque d'empathie. Je pense que d'avoir un management qui est dans l'empathie, de comprendre les autres avant de pousser ses objectifs, fait toute la différence.
Et dernière question, chez Jeudi Merci, nous on aime beaucoup les cadeaux. Est-ce que tu as déjà reçu dans le cadre du boulot un cadeau qui t'a vraiment marqué.
Tout à fait. Un petit cookie personnalisé avec mon nom, vegan, gluten-free, encore une fois, pour s'assurer que, en fait, d'envoyer du saucisson, c'est, on peut plus faire ça sans demander. Donc, de vraiment, encore une fois, derrière, d'avoir un truc hyper personnalisé et mindful.
C'était de la part de qui ?
C'était de la part de Naturalia.
Ah, ils sont forts.
Ils sont très forts, Naturalia.
Bon, merci beaucoup, Julia, d'avoir participé au Fou du Roi avec nous. On est ravis d'en avoir appris plus sur la stratégie d'HubSpot et sur vos bonnes pratiques. Si nos auditeurs ont des questions, est-ce qu'ils peuvent te joindre ?
Tout à fait. Je suis bien évidemment sur LinkedIn. N'hésitez pas, ma messagerie est ouverte. Ou par email, jcam@hubspot.com.